On reçoit un jeune homme qui a déjà une longue feuille de route. Actuellement stagiaire en droit chez Trivium Avocat, Simon Tellez a notamment œuvré à l'aile jeunesse du chantier d'économie sociale et a contribué à fonder l'organisme « Sans oui, c'est non » pour prévenir les violences à caractère sexuel sur les campus collégiaux universitaires. On aurait pu le recevoir, ne serait-ce que sur ce sujet-là, tellement c'est d'actualité. Mais en fait, aujourd'hui, je veux lui parler de la lettre ouverte qu'il a publiée avec 19 autres co-signataires dans la presse, où il questionne un peu tous les enjeux intergénérationnels liés à la COVID-19. Bonjour Simon.
Bonjour à vous, vous allez bien?
Oui, très bien. Est-ce que je peux te demander rapidement de nous dire qu'est-ce que Force Jeunesse? Est-ce que c'est politique, pas politique? Je sais la réponse, mais juste pour nos éditeurs.
Absolument. En fait, on est une organisation de jeunes bénévoles. On est un conseil d'administration de 18 personnes qui font ça de façon 100% bénévole, avec évidemment beaucoup d'autres personnes sur des comités qui contribuent à la mission de l'organisation. Et qu'est-ce que c'est notre mission? Mais précisément, c'est de défendre l'équité intergénérationnelle dans les politiques publiques, que ce soit au niveau économique, au niveau social, au niveau communautaire. Donc, c'est vraiment de s'assurer que les jeunes auront dans plusieurs années la même chance, les mêmes opportunités qu'on a aujourd'hui et que les décisions qui sont prises soient faites dans cette perspective-là. Mais on n'est pas seulement une organisation politique qui défend cet enjeu-là. Aussi, on organise différents événements où on veut intéresser les jeunes à l'engagement, intéresser les jeunes à la chose publique, puis les mettre en lien les uns avec les autres pour pouvoir échanger à propos de leurs différents projets.
Je me suis intéressée à te recevoir parce que j'ai lu cette lettre ouverte-là le 30 juin dernier dans la presse et j'ai trouvé ça intéressant d'abord que vous vous exprimiez là, cette solidarité-là envers les aînés qui ont maille à partir avec un système de santé qui est plus malade qu'on le pensait, mais aussi tout ce que ça soulève là, pour l'avenir. Je pense que c'est un moment où la COVID-19 nous amène à revoir nos façons de faire et je pense que vous avez voulu contribuer à cette vision-là. Peux-tu me résumer un peu les points saillants de cette lettre-là?
Absolument. Ce qu'on voulait faire, c'est de vraiment se rassembler avec différents partenaires. Vous avez vu les signataires, vraiment, c'est des organisations qui sont très, très variées.
Oui.
C'est d'envoyer un message très fort, non seulement à nos élus, mais aussi à la jeunesse en général, pour leur dire que on est là, on est présent, on est mobilisé. Il y a des possibilités d'implication et même si les défis ont été très difficiles suivant la COVID, souvent, on peut penser que les jeunes ne sont pas touchés, mais ils le sont dans des secteurs très, très spécifiques et on peut agir dans ces domaines-là. Et ce qu'on voulait leur envoyer comme message, c'est que c'est ça, il y avait une possibilité de reconstruire, que cette jeunesse-là, elle est engagée au cœur de la reconstruction. Et on a voulu positionner des enjeux qui, pour nous, sont fondamentaux, qui reviennent sans cesse quand on discute avec des jeunes. Et évidemment, la question de l'environnement revient systématiquement. C'est une préoccupation qui est très, très importante. Mm-hmm. Mais également, tous les enjeux d'emploi, le financement de notre système de santé, l'accessibilité de notre système de santé, sont tous des préoccupations qui mobilisent beaucoup la jeunesse.
C'est sûr que chacun des co-signataires de cette lettre-là, vous serez tous des aînés un jour. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce que Force Jeunesse aimerait avoir contribué à changer pour les aînés que vous allez être dans le futur?
Absolument, puis c'est une excellente question parce que c'est le cœur de notre engagement. Vraiment, on a été fondés sur la base de cette valeur-là, qui est l'équité intergénérationnelle, et c'est certain qu'on va passer par là. Je pense que si on peut, notre génération est celle qui va arriver à renverser, si on veut, la crise climatique, parce que c'est vraiment, on en a pris conscience de façon plus soutenue dans les dernières années. Puis je pense qu'on a la responsabilité de prendre les moyens de changer les choses pour léguer aux générations qui vont nous suivre une planète puis un environnement en meilleures conditions. Et donc ça, c'est le défi que j'espère qu'on va relever, qui pèse sur nos épaules. Sinon, ce sera franchement, ce sera un gros passif qu'on va leur avoir légué. Il n'y a pas seulement la dette financière, il y a la dette environnementale. Puis ça, je pense que c'est notre plus grand objectif. Mais j'aimerais, comme personne aînée, vivre vraiment dans un milieu où je peux être entourée de mes proches, où j'ai la meilleure santé possible, où j'ai la meilleure autonomie possible. Puis ça dépend aussi, ça, des choix qu'on va faire aujourd'hui. Et donc, c'est le cœur de notre engagement.
Simon, je voudrais pas te mettre dans l'eau chaude, là, mais tu parlais de crise et je peux pas m'empêcher de poser la question, là, de te demander ton avis là, sur le scandale autour de We Charity en lien avec le bénévolat étudiant. Qu'est-ce qu'on peut lire de tout ça?
C'est un dossier un peu épineux. Ce qu'on constate, c'est que les jeunes sont mobilisés puis veulent donner du temps. Donc ça, moi, c'est ce que je retiens de la COVID, c'est que les jeunes ont voulu chercher des façons de s'engager, ont eu du temps, puis ont voulu le donner à différentes organisations bénévoles. Je pense que ça se faisait bien avant que We Charity soit discuté, puis ça va continuer à se faire. Ce que j'espère vraiment, c'est que ça portera pas d'ombre ou ça va pas décourager des jeunes de s'impliquer, mais je pense pas de ce que je vois sur le terrain présentement.
Est-ce que je peux, moi, vous faire une demande pour les prochaines générations? Justement, on voit de moins en moins de tolérance à toutes ces histoires-là de corruption, aux gestionnaires qui sont des péteurs de coche en série. Donc, est-ce que je peux vous faire la demande d'essayer dans nos milieux de travail de changer les choses?
Absolument. Puis ça, on est aussi très, très, très touchés par cet enjeu-là. Le travail, vraiment, en fait, on a été fondé sur cette question-là, sur l'enjeu des clauses de disparité de traitement, plus spécifiquement, qui accordaient, en fait, des conditions de travail moins avantageuses aux jeunes travailleurs qui commençaient que des gens qui avaient plus d'ancienneté. Donc, oui, ça, c'est aussi très préoccupant pour nous.
Donc, je pense que vous voulez comme travailler plus aussi tous les climats toxiques à faire en sorte là, qu'on ait des milieux plus verts, plus durables, autant dans nos milieux de travail que dans l'environnement en général.
Absolument. Puis je pense que un des avantages qu'on peut retenir de la COVID, c'est que ça va avoir bouleversé le milieu de travail pour le meilleur et pour le pire, mais certainement, ça nous force à repenser certaines façons de travailler, peut-être en laissant plus de place au télétravail. Il y a quand même des réflexions intéressantes qui peuvent être tirées de tout ça, puis il faut saisir ces opportunités-là pour avoir des réflexions puis changer certaines pratiques.
Justement, quel type de préjugés vous entendez des aînés par rapport aux jeunes ou encore des jeunes par rapport aux personnes âgées sur lesquelles vous pourriez nous offrir une autre perspective?
Oui, puis ça, c'est je pense qu'il faut absolument les déconstruire, ces préjugés-là, autant d'un côté comme de l'autre, parce qu'il y en a. Ce genre de préjugés-là, je pense, fait avancer personne, puis il faut activement lutter contre ça. C'est un grand classique, mais ce qu'on va souvent entendre des jeunes, c'est qui sont moins travaillants, c'est qui l'ont tout cuit dans le bec, qui l'ont un peu facile. Puis c'est vraiment généralisé, parce que je pense que chaque génération a des défis qui lui sont bien propres. Puis c'est difficile de comparer comparer la difficulté qu'on peut rencontrer. Souvent, on se dit « Ah, ben on a la technologie, c'est tellement plus facile. » C'est vrai qu'il y a des avantages de la technologie, mais il y a aussi des effets pervers à la technologie d'avoir grandi à travers tout ça dans des périodes de vie qui sont particulièrement difficiles à la base. Bien, ça vient mettre une pression supplémentaire. On a des milieux de travail qui nous demandent de réagir très, très, très rapidement dans l'instantanéité. Il y a une pression qui est immense. Donc, je pense pas qu'on peut dire qu'une génération l'a eu plus difficile que l'autre. On a vraiment tous nos enjeux, puis on essaie de bien faire. Donc, ça, c'en est une que j'aimerais évidemment déconstruire. Puis, j'aime pas non plus quand j'entends des jeunes dire « Ah, les gens qui nous ont précédés, les baby-boomers, on l'entend souvent, qui nous ont légué certains passifs, bien, ils ont aussi construit la société dans laquelle on vit, puis le modèle social du Québec, qui est absolument extraordinaire et enviable partout dans le monde. Donc, je pense qu'on leur doit une fière chandelle, puis c'est pour ça qu'on s'indigne de ce qu'on a vu dans les CHSLD, notamment dans le cadre de la COVID, puis qu'on s'inquiète des soins de santé qui sont là pour les aînés. On a beau être jeune, puis on a beau défendre les intérêts des jeunes, l'équité intergénérationnelle, c'est de défendre tout le monde, puis c'est ce qui nous anime beaucoup.
Bien, merci de contribuer à ce débat-là qu'on va avoir au fil du temps. On va parler souvent justement de comment déconstruire ces préjugés-là pour créer des liens.